au 01 45 24 7000 avec d'abord Annick qui nous appelle de Paris. Bonjour.
Oui, bonjour. D'abord, un grand merci à France Inter.
Merci.
Quand vous n'êtes pas là, je me sens orpheline. Ah. Mon cerveau ne fonctionne plus.
Elle essaie de toujours être là, quand même.
Oui. Bon, oui, je sais. Bon, ma question est la suivante. Je pense qu'il y a une solution extrêmement simple pour, amener la majorité pénale à 16 ans, c'est de mettre la majorité civile à 16 ans. On peut imaginer que nos ados d'aujourd'hui sont beaucoup plus mûrs que je ne l'ai pu être, je suis une grand-mère, ou que n'ont pu l'être ma fille et mes petits-enfants. Donc, si on donne la majorité civile, eh bien, on peut aller en prison, mais on peut aussi voter.
Merci. Mais on peut déjà aller en prison, pardon, il y a... On peut encourir la réclusion à perpétuité pour les mineurs de 16 à 18 ans. François Baroin.
Oui, oui, c'est un élément du débat, bien sûr. Il y a de la cohérence dans ce qui est dit, c'est-à-dire une responsabilité à double étage, sa responsabilité de citoyen avec son droit, et puis sa responsabilité éventuellement devant une juridiction, et ça s'appelle la responsabilité de ses devoirs. Ça ne me choque pas que ce débat soit aujourd'hui lancé. C'est François Fillon qui l'ouvre. Je pense qu'il y a une évolution. Madame le dit très bien. Il y a une évolution aujourd'hui. On n'est pas de la même manière. On n'a pas accès aux mêmes informations. Il n'y a pas non plus la même réalité d'un engorgement des tribunaux sur des faits de mineurs. Alors il y a des protections. Il faut garder les protections. Et elles existent. Et les tribunaux pour enfants ou même les cours constitués lorsqu'il s'agit de crimes, ça a existé par le passé, il y a des garanties autour du huis clos, ce genre de choses, il faut naturellement garantir, et puis il faut aussi acter le fait que lorsque l'on est peu avancé au compteur de la vie, mais qu'on a déjà commis des actes qui peuvent être condamnés par la justice, il y a aussi la rédemption, il y a aussi le parcours, il y a aussi l'accompagnement, il y a aussi la formation, il y a aussi le parcours pénitentiaire, qui peut être un parcours qui permet de se reconstruire. Il faut croire à cette construction, et l'abaissement de la majorité pénale à 16 ans n'est pas la remise en cause de la poursuite de la construction, c'est l'accompagnement aussi par la société.
C'était pas la philosophie qui sous-tendait le discours hier très sécuritaire de François Fillon.
Discours très sécuritaire, écoutez.
Il tranchait avec le ton d'avant. Alors peut-être qu'il y a d'autres raisons pour ce changement, mais.
Les interprétations et les commentaires sont libres.
Oui.
On se connaît assez, Thomas Legrand, oui. Pour en débattre souvent. On est dans un pays qui est sous état d'urgence. On est menacé quand même par des terroristes qui veulent abattre notre mode de vie, notre cadre général. On doit naturellement réarmer l'État. Il y a eu un affaiblissement. Je ne dis pas que ce que le gouvernement a fait n'était pas bien. Clairement, ça a été insuffisant. Il nous faut fixer un cadre. Il nous manque 20 000 places de prison, etc., etc. Tout ça doit être reconstruit.
Geneviève nous appelle de Haute-Savoie. Bonjour Geneviève.
Bonjour à vous tous. J'ai une question sur le programme de M. Fillon. Donc M. Fillon souhaite qu'il y ait 500 000 fonctionnaires en moins. Donc je suppose que ça va passer par des non-remplacements de départs à la retraite et surtout des départs à la retraite anticipés. En ce qui me concerne, j'ai pu bénéficier d'un départ à 56 ans. Or, en parallèle, M. Fillon souhaite le rallongement de l'âge de la retraite. Et donc, je me pose la question de savoir comment il va pouvoir gérer ce clivage entre le secteur privé et le secteur public. Merci.
Merci Geneviève. François Baroin.
Alors, ce n'est pas tout à fait des fonctionnaires, ce sont des agents publics, puisque le fait de contribuer à un service public, comme vous ici, c'est un cadre général. Et nous l'avons fait par le passé lorsque nous étions aux affaires. Il se trouve que j'étais ministre du budget et dans le portefeuille qui était le mien, j'avais...
Pas dans cette ampleur et pas à ce rythme.
C'est vrai, on avait fait le 1 sur 2, j'avais donc la fonction publique dans mon portefeuille, j'avais discuté avec les syndicats de la fonction publique qui sont des gens remarquables, qui ont un attachement à l'intérêt général et qui exercent la défense de la fonction publique avec une haute idée de la France. Nous avons pu obtenir et la poursuite du 1 sur 2 et le gel du point d'indice dans une contribution de l'effort de la fonction publique à l'assainissement de nos finances publiques. La contrepartie, c'était qu'une partie des économies effectuées par la suppression de ces postes dans le non-remplacement d'un d'un fonctionnaire partant à la retraite sur deux était affecté à une amélioration de la garantie individuelle du pouvoir d'achat, à une amélioration de ce qu'on appelle le glissement vieillesse-technicité, à une amélioration, un soutien du pouvoir d'achat. Et d'ailleurs, le pouvoir d'achat des fonctionnaires à l'époque avait bien tenu, ce qui avait aussi permis de soutenir la consommation. N'oubliez pas non plus que lorsque l'on parle de ça, on gère une bosse démographique, que vous avez trois fonctions publiques, vous en avez une de l'État, hospitalière et territoriale, que beaucoup de gens sont rentrés dans la territoriale, c'est-à-dire les collectivités territoriales, au moment des lois de décentralisation en 82, et qu'il y a une possibilité dans cette législature qui s'offre, 2017-2022, de gérer avec un peu plus que le 1 sur 2 et d'atteindre l'objectif cible fixé par François Fillon.
Vous êtes le président de l'Association des maires de France, François Baroin. Vous n'imaginez pas qu'on puisse, en un quinquennat, supprimer 200 ou 250 000 emplois dans les collectivités territoriales.
Vous n'imaginez pas l'acharnement avec lequel je me bats pour obtenir...
Pour que cette promesse de François Fillon ne soit pas appliquée.
Ce n'est pas une promesse, c'est une discussion. Nous allons d'ailleurs proposer...
Attendez, lui, il l'a présenté dans la primaire comme une mesure, comme une promesse.
En tout cas, je rappelle que la Constitution garantit la libre administration des collectivités territoriales.
Oui, donc il faudrait changer la Constitution.
Elle ne sera pas changée sur ce sujet. La Constitution ne sera certainement pas changée sur la libre administration des collectivités territoriales.
Cette promesse ne sera pas tenue, ne pourra pas être tenue.
On pourra le vérifier, mais François Fillon a bien annoncé pendant la primaire qu'il faudrait changer la Constitution pour pouvoir effectivement qu'il y ait un contrôle de l'État sur les effectifs des collectivités territoriales.
On se donne rendez-vous dans quelques jours, en tout cas avant la fin de la présidentielle. Vous verrez que le cadre d'un contrat de mandature nécessaire entre l'État et les collectivités territoriales, et notamment les communes qu'il faut protéger, sera dans des proportions acceptable par tous et pour tous. J'organise comme président des maires de France un rassemblement des maires, en partenariat d'ailleurs avec Radio France, le 22 mars, où nous invitons tous les candidats à l'élection présidentielle. J'ai vu mon médecin récemment, je ne suis frappé d'aucune schizophrénie, et si c'était un gouvernement de droite qui avait imposé autant de baisses de dotation que celui que François Hollande nous a imposé, je me serais battu avec la même énergie.
D'accord. Donc, si c'est moins pour les collectivités territoriales, si vous réduisez la facture, si je puis dire, ça fera pas 500 000 au total. En tout cas, le chiffre affiché par François Fillon ne sera pas atteint.
Pour rentrer dans le détail, si vous voulez, mais j'ai peur que malheureusement les auditeurs qui nous écoutent et qui veulent intervenir,
ça les intéresse beaucoup. Hein.
Je vous ai dit que la bosse démographique sur la fonction publique territoriale peut probablement permettre d'aller dans le 1 sur 2, mais dans un contrat. Le maire que je suis, c'est un employeur local. On peut aussi lui donner plus de souplesse. On peut évoluer sur le jour de carence. On peut supprimer, par exemple, un certain nombre de normes. 500 000, c'est un objectif cible qui est important. Mais ce n'est pas des fonctionnaires, c'est des agents publics. C'est des contrats qui ne sont pas remplacés. C'est de la mutualisation entre les communes et les intercommunalités. Donc il y a beaucoup de méthodes pour l'atteindre.
Puisqu'on est dans les adaptations du programme de François Fillon, on peut faire quelques autres crash tests avec des mesures qui ne vous plaisent pas et vous les détaillez dans votre livre, François Baroin. La hausse de la TVA, ça peut s'amender ?
J'ai appartenu à deux gouvernements qui ont fait de la TVA, en 95 avec Alain Juppé et en 2011-2012 avec François Fillon et Nicolas Sarkozy. Les choses ont changé depuis 1995 et l'impact direct d'une hausse de la TVA ne se lie pas sur le prix. Les agents économiques n'impactent pas directement et il n'y a pas une hausse immédiate de l'inflation. Donc ça peut s'envisager, ça ne peut pas s'envisager sur tous les secteurs d'activité économique. Si vous impactez les services, il y a un impact assez fort sur la consommation. Si vous ne le faites que sur les biens de consommation, comme on sait qu'à 50% c'est des produits fabriqués à l'extérieur et qui sont importés dans notre pays, ça peut donner du sens sur la problématique, par exemple, de l'équilibre autour de la TVA sociale. Donc, la formulation que je mets dans le livre Un chemin français, c'est je m'interroge, je ne suis pas contre, j'accompagnerai, mais dans des proportions qui n'impactent pas la consommation pour ne pas altérer notre croissance à venir.
La fin du cumul des mandats ?
Alors là aussi, il faudrait un peu de temps. Moi, je considère que il y a beaucoup de fantasmes là-dessus, mais la France, vous avez un Français sur deux qui vit dans une commune de moins de 10 000 habitants. Un Français sur deux. Vous avez 36% de la population française qui vit dans des communes de moins de 2500 habitants. La France est un pays centralisé. Bercy dirige beaucoup de choses, je l'ai moi-même dirigé. La France de Hollande, c'est 13 régions, 16 métropoles. Si on veut que toutes les énergies soient absorbées comme des trous noirs par ce qui est de construction urbaine et décidé par l'État, alors cette loi anti-cumul sera en fait une loi anti-territoire, anti-maire. Il n'y aura plus de voix à Paris pour se faire entendre et on ne pèsera plus au Parlement pour trouver l'équilibre avec un exécutif puissant.
Donc là aussi le combat ou la discussion, comme vous dites, continuera.
La discussion, j'entends bien qu'en disant ça, j'ai 95% des gens qui nous écoutent qui disent, mais qu'est-ce que
François
c'est
Fillon.
Oui, mais ce combat n'a pas été mené, on n'a pas dit à l'opinion publique la réalité. Je suis le président des maires, je défends les territoires, c'est aussi ça le sens de mon combat.
Michel nous appelle de Paris, bonjour Michel.
Bonjour, je suis une fidèle de l'émission et je précise tout de suite, je suis de droite. Nous avons voté Fillon et malheureusement nous nous sentons tout simplement trahis. Et je dois ajouter, Monsieur Georges Fenech et ses collègues sont les plus lucides pour dire les vérités qui dérangent et espèrent désigner un autre candidat. Désormais, je précise, nous sommes très nombreux à soutenir Emmanuel Macron. Et maintenant, je traque pour le mouvement En Marche, tout simplement. Nous sommes absolument dégoûtés. Et je souhaite qu'une chose... une bonne chose que la droite, enfin cette droite, se crache pour de bon. Et nous sommes pour Emmanuel Macron. Voilà.
D'où vient ce nous, Michel ? C'est un groupe de sympathisants ou de militants, les Républicains, chez vous à Paris ?
Je dis nous parce que beaucoup de personnes de droite, vraiment de droite, étions franchement pour Fillon. Nous sommes tellement déçus et trahis. Tout simplement, je dis nous parce que nous sommes très nombreux. Tout simplement.
Vous seriez, madame, vous seriez pour François Baroin, par exemple, si c'était, si il y avait
je
un plan B.
Je suis désolé, même pas. Et c'est trop juste maintenant, de toutes les façons.
C'est un peu tard.
Bon, enfin, en tout cas, je suis rassuré que vous votiez pour nous et que vous soyez de droite. Je comprends parfaitement. Et moi, je suis pas dans le déni. Oui, mais enfin, ce que le peuple souverain a fait, le peuple souverain peut le défaire. Si nous avons perdu la confiance de cette dame, nous sommes en situation de pouvoir la reconquérir, je l'espère, avec la campagne que nous proposons. Macron, objectivement, peut être en marche, mais c'est une agence de voyage qui lui permet de visiter la France et de la découvrir. Et c'est en train de tourner vers une vision christique, il l'assume. Mais oui, mais je le dis franchement, parce que, écoutez, tous ces chakras sont ouverts, ces capteurs d'énergie sont tournés vers le soleil, et c'est mythique, ça va finir en gospel maintenant. Donc c'est ça l'avenir et la question du programme c'est pas une petite question et quand il dit on n'a pas besoin de programme quand il nous dit il y a pas de culture française quand même un homme qui nous fait la leçon depuis des mois et des mois sur le thème je suis un littéraire il faut savoir bien nommer les choses c'est le même qui explique que quand il est allé à Gade, il a vu des illettrés. C'est le même qui nous dit que quand il va dans le Nord, il voit des alcooliques tabagiques. C'est le même, En Marche actuellement, qui fait une interview dans une radio, une télévision en Algérie, et qui explique que la colonisation est un crime contre l'humanité. C'est le même, en réalité, qui est un communautariste, et donc il porte ce qu'il porte, ou le peu qu'il porte, est un projet que nous combattons.
Il pense comme Clémenceau sur la colonisation.
Je ne sais pas comment il pense, je ne sais pas ce qu'il pense, tout ce que
mais
je sais, c'est
d'avoir
la phrase...
dit ça de, sur la colonisation. En Algérie, discours destiné aux Algériens, vous avez rappelé que c'était dans une radio algérienne. C'est une faute à vos yeux, François Baroin, comme l'a dénoncé
le problème dans tous
François
les sens.
Fillon.
Se positionner au regard de l'histoire de notre pays en insultant une partie de ce qu'a été l'histoire de notre pays pendant longtemps, bien sûr que c'est une faute. Et c'est pas la seule.
Mathieu nous appelle de je ne sais pas où, de Luce.
De bonjour. Chartres.
Pardon,
de Chartres.
De Chartres.
Oui.
Nous vous écoutons, Mathieu.
Voilà, moi, j'avais une question pour François Baroin. Je voulais savoir comment les gens honnêtes de droite, dont peut-être même il fait partie, acceptent de se compromettre avec François Fillon. Et au-delà de ça, ça ouvre évidemment un boulevard pour Marine Le Pen, ce genre d'attitude, à mon avis.
Merci, Mathieu.
Je suis un citoyen comme vous, un responsable public engagé. Je suis également avocat. Je crois à la préservation de nos libertés fondamentales. Je ne suis pas un accusateur public. Je crois à la présomption d'innocence. J'ai entendu François Fillon. Il y a le chemin judiciaire d'une part. Lorsqu'il évoque le tribunal médiatique, c'est comme un match de foot où le supporter est en même temps l'arbitre, le gardien et l'attaquant. Je ne suis pas en situation de juger. Moi, je lui fais confiance. Il a toute ma confiance et le reste est susceptible de pouvoir être corrigé. Qu'il y ait un trouble.
Les médias sont les citoyens qui jugent. Qui jugent une attitude, une pratique.
Attendez, on n'est pas
aveugle. Personnelle.
Il y a un impact. Il y a un impact. Mais de là à expliquer que ce qui a été fait dans un cadre légal défini par François Fillon lui-même, où il apporte aux enquêteurs qui l'ont interrogé le cadre général de cette démonstration, qui peut porter un jugement, je crois à la présomption d'innocence, et je crois que dans cette affaire, comme dans toutes les autres, il faut garantir nos libertés fondamentales. C'est vrai pour un politique, c'est vrai pour tout le monde.
Jusqu'au moment où il y aura une décision du parquet financier, vous la redoutez, François Baroin ?
Mais pareil, c'est un chemin judiciaire, ce sont des éléments de procédure, jusqu'au moment où il y a éventuellement
C'est un chemin légitime ? le chemin judiciaire du parquet financier. Le parquet financier est compétent, selon
vous ? Les avocats ont fait leur travail. Ils ont soulevé des points d'interrogation fondés sur le parquet national financier, qui ne peut pas se saisir des abus de biens sociaux, même par connexité.
Vous étiez d'accord, vous, pour qu'on dénonce cette incompétence ?
Ah, je pense que on est dans un état de droit et qu'il faut faire valoir tous ses droits.